à la création d'un univers cyclique qu'il veut autosuffisant. Et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que le plaisir ou même la fascination associée à cette lecture proviennent largement de cette évasion qu'elle procure, évasion complète, hors du réel quotidien, et même de ce qu'on peut qualifier de phénomène d'invasion par le monde fictionnel, que ce soit Arda ou la seule terre du milieu qui en est un continent, qui dégage une telle sensation de cohérence et de plénitude qu'elle s'impose littéralement à l'imaginaire du lecteur. Effectivement, ça n'est pas un hasard si le désir d'illustration graphique ou cinématographique se développe à tel point autour de l'œuvre de Tolkien, ou encore si tant de jeux de rôle l'ont prise pour modèle. Pour moi, ce sont autant de signes de cette expérience de ravissement que peuvent faire les lecteurs du Seigneur des Anneaux, donc un ravissement hors de soi qui se traduit par un désir de participation au monde fictionnel. Une quête toujours vouée ultimement à l'échec, mais une quête néanmoins pour entrer toujours davantage à l'intérieur de ce monde. Donc c'est ça que je vais, ce phénomène que je vais essayer d'expliquer, de développer. Et il faut commencer par dire que Tolkien lui-même envisageait son œuvre en ces termes. Il qualifiait sa démarche de sous-création et celle du lecteur de créance secondaire. Donc il conçoit son œuvre comme une création, une sous-création, donc une création du même type que la Genèse, inférieure bien sûr, mais une création de ce type, et pour lui, auteur et lecteur sont censés partager un même acte de foi, une créance secondaire, un même acte de foi dans la capacité de la fiction à imposer sa cohérence interne. Alors je cite plus précisément ce passage sur la sous-création qui est dans l'article le plus célèbre de Tolkien, du Conte de Fées, que vous trouverez dans le recueil Fairy, donc qui vient de reparaître. Le conteur se montre un sous-créateur qui réussit. Il fabrique un monde secondaire dans lequel l'esprit peut entrer. À l'intérieur, ce qu'il relate est vrai. Cela s'accorde avec les lois de ce monde. L'on y croit donc tant que l'on se trouve, pour ainsi dire, dedans. Donc, il y a un monde dans lequel on entre. Et en effet, rarement l'élaboration d'un monde fictionnel aura fait l'objet de soins aussi méticuleux que dans le cas du cycle de Tolkien. Donc, il s'y est consacré littéralement tout au long de sa vie d'adulte, justement parce qu'il aurait voulu ce monde parfait, si complet en lui-même, si bien justifié de l'intérieur, qu'il soit capable de concurrencer un monde réel autrement décevant. Le travail sur les appendices du Seigneur des Anneaux, auquel Tolkien a eu tant de mal à mettre fin, c'est pour ça qu'il y a eu un décalage pour le troisième volume, ou encore l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé à faire paraître le Silmarillion de son vivant, dans les deux cas, parce qu'il lui était impossible d'en être pleinement satisfait, témoigne de cette même logique, quasi névrotique, en tout cas d'une même exigence absolue vis-à-vis du caractère maximal que devait revêtir son monde. Il voulait en faire une entité autonome, dotée de son propre bruit de fond et de ses propres règles de validation. C'est ainsi un monde qui possède ses propres sciences, son histoire, sa géographie, sa linguistique, qui n'ont pas d'intérêt en dehors de ce monde, qui sont créés pour lui. C'est un monde qui est attesté par ses propres documents, des textes anciens, des chronologies, des généalogies, des cartes géographiques, etc. C'est enfin un monde qui possède ses propres fictions à l'intérieur de la fiction, des chansons, des laits, des légendes. Bon, donc Tolkien voulait ça, et dans un deuxième temps, il a réussi à transmettre cette même méticulosité maniaque à ses lecteurs, ce qui est le signe de cette sorte d'emprise qu'exerce l'univers maximal sur ses explorateurs. On peut en avoir une bonne idée en lisant la correspondance de Tolkien, qui pour l'instant est encore accessible seulement en anglais, mais en cours de traduction. Puisque donc, pendant les premières années qui ont suivi la publication du Seigneur des Anneaux, Tolkien a répondu aux questions et aux remarques de ses lecteurs. Alors maintenant ça ressemble à un rêve, mais à l'époque c'était possible et il répondait souvent de manière incroyablement détaillée. on peut en donner une juste idée en évoquant simplement une lettre très fameuse où Tolkien consacre 7 pleines pages à décrire le seul système d'échange des cadeaux d'anniversaire entre hobbits. Donc selon la structure familiale, selon le nombre de personnes impliquées, c'est extrêmement complexe et il peut répondre 7 pages sur ce sujet unique. Et en 1956, il a d'ailleurs eu le projet de faire paraître un volume supplémentaire aux annexes du Seigneur des Anneaux, justement pour se conformer aux attentes de ses lecteurs, pour uniquement répondre aux demandes de précision qui lui avaient été faites. Alors je vais citer le courrier, la lettre à son éditeur où il évoque ce projet, en faisant un certain nombre de coupures dans cette citation, parce que justement la liste des demandes est très longue, sans fin. Alors beaucoup demandent des cartes, d'autres souhaitent des indications sur la géologie, plus que sur les lieux. Beaucoup veulent des grammaires de l'elfique, de la phonologie, des spécimens d'écriture. Certains veulent de la métrique et de la prosodie. Ça, c'est pour les poèmes du Seigneur des Anneaux. Les musiciens veulent connaître des airs et la notation musicale. Les archéologues, des détails sur les céramiques et la composition des métaux. Les botanistes, des descriptions plus précises du Malorne, de l'Elanor, du Nifredil, de l'Alphirine. Les historiens, plus de détails sur l'organisation sociale et politique de Gondor. Ce sera un gros volume, hein, même si je me limite à ce que mon entendement peut m'en révéler. Donc, on le comprend bien, chacun cherche à en savoir toujours plus au sujet de la Terre du Milieu, dans son domaine de spécialité en général. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il pose ces questions sans douter apparemment une seule seconde que les réponses soient accessibles. C'est-à-dire qu'il soit, par exemple, possible de fournir une description de l'Elanor susceptible de combler un botaniste. C'est évidemment impossible. Alors Tolkien entre complètement dans ce jeu, puisque ici, il évoque les seules limites de son entendement, aux limites des réponses qu'il peut apporter aux questions de ses lecteurs. Pourtant, et clairement, on touche ici aux limites du roman-monde lui-même et de ce qu'il est possible d'en attendre. Comme son nom l'indique, ce monde n'est jamais que le produit d'un roman ou d'un ensemble de romans. On va y revenir, mais en tout cas, il ne saurait contenir plus que ce que disent à son sujet l'ensemble des textes qu'il décrive. Hein, c'est une autre façon de dire que un monde fictionnel, c'est-à-dire le monde possible construit par une fiction romanesque, ne saurait jamais être qu'être incomplet. C'est un élément de définition parmi vous. Bon. Consensus théorique sur ce point, je cite Umberto Eco dans Les limites de l'interprétation. Un texte ne saurait représenter qu'une infime partie de la description de son univers. Un texte ne peut jamais développer toutes ses implications sémantiques, tout simplement parce qu'elles sont infinies. Et même, au contraire, son existence, l'existence de n'importe quel texte en tant que fiction, repose sur cette acceptation de l'implicite, hein, par tout le monde. Donc le lecteur n'est pas censé contrer ce phénomène, sinon, je cite donc à nouveau, je complète ma citation d'Umberto Eco, sinon il sera condamné à une recherche encyclopédique éternelle. Donc il me semble qu'on retrouve bien là tout à fait la tentation pointée à propos des lecteurs de Tolkien. Car en effet, si un univers fictionnel est par définition forcément incomplet, rien n'oblige non plus à l'accepter. La littérature réaliste contemporaine est à l'évidence comme hantée par cette fatalité du lacunaire. On va vers une écriture blanche, une écriture du vide. Mais rien n'empêche, à l'inverse, de proposer, comme le fait Tolkien, les univers les plus vastes possibles. Donc le cycle de Tolkien représente clairement cette tendance-là, hein, cet effort pour réduire au maximum la perceptibilité de l'incomplétude fictionnelle, sans la réduire effectivement, mais réduire sa perception en proposant donc des mondes maximaux, présentés comme indépendants du réel, d'emblée très vastes et dont surtout plusieurs volumes vont venir poursuivre le développement. Ça, c'est un point très important. Plusieurs textes matériellement disjoints explore le même univers fictionnel. C'est ce qu'on appelle un cycle. Donc, dans le cas de Tolkien, Vincent l'a indiqué, les trois volumes du Seigneur, les trois ou quatre volumes du Seigneur des Anneaux, qui ne forment qu'un seul ouvrage. Donc, la pièce maîtresse du cycle, tant par sa longueur, sa place finale, que par le soin que Tolkien a pu apporter à son élaboration, puisque la Genèse a duré très longtemps. Mais aussi, donc, dans l'ordre de l'histoire, en commençant par le début de la Diégèse, qui ne correspond pas à l'ordre de la parution de ces textes, le cycle comprend également donc, les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, le Silmarillion, qui en est une compilation par un choix d'édition par Christopher Tolkien, et Bilbo le Hobbit. Ces différents textes sont également fondamentaux pour l'appréhension du monde fictionnel de Tolkien, donc je vous invite à les lire, ne serait-ce que parce qu'ils viennent rappeler que ce monde n'est pas associé à une intrigue et à une seule. Le lecteur a toujours la possibilité de le retrouver ailleurs, dans d'autres textes, à la fois identiques et pourtant différents, puisque bien entendu il y a des variations de contenu, mais aussi des variations de tonalité très importantes entre les ouvrages, entre autres selon le public visé, enfant ou adulte, mais pas seulement. Également, ces textes saisissent la Terre du Milieu à différents points de sa chronologie, ce qui implique que ce monde est inscrit dans la durée, qu'il y a une évolution, à la fois une continuité et une progression de ce qui nous est donné à voir de ce monde. Et enfin, ces différents textes ne cessent de renvoyer les uns aux autres, et de cette manière, ils s'accréditent les uns les autres. Donc, la succession des volumes qui en rendent compte contribue très puissamment à l'effet de vraisemblance de la Terre du Milieu, du roman Monde de Tolkien, et également à cette sorte de familiarité qu'il acquiert progressivement auprès du lecteur. Au départ, largement inédit, même s'il repose sur des éléments de mythologie et de littérature existantes, mais au départ largement inédit, ce monde se construit au fil des volumes, au fil des lectures. Donc le lecteur le voit se construire devant lui, et il peut légitimement acquérir l'impression que cette construction aurait pu se poursuivre, pourrait s'être poursuivie, et pourrait encore se poursuivre, et qu'à la limite, son imagination est comme invitée à poursuivre cette construction. Je pense que c'est ça l'influence importante de Tolkien sur la fantasy contemporaine. C'est les auteurs de fantasy contemporain reprennent à Tolkien cette invitation à la création d'un monde fictionnel qui soit le plus vaste possible et qui donc se développe systématiquement sur plusieurs volumes. Si vous êtes familier des rayons consacrés aux littératures de l'imaginaire dans les librairies, le phénomène qui constitue le cycle n'a pas pu vous échapper puisqu'il est absolument hégémonique. Alors c'est le cas en science-fiction pour des raisons un peu différentes, mais on peut par exemple penser au volume de Dune de Frank Herbert pour un exemple comparable à Tolkien pour ce sentiment d'exhaustivité communiqué au lecteur, mais c'est surtout le cas en fantasy où les exemples sont littéralement innombrables, donc ceux que qu'Alain Evans a cités, Feist, Eddings, Jordan, Tad Williams, Robin Hobb, Brooks. Et pour les auteurs français qu'on recevra tout à l'heure, Fabrice Collin et Henry Lovenbrook également ont écrit des cycles. Alors en tout cas, pour les exemples américains, ce sont fréquemment des textes interminables, enfin qui peuvent toujours être relancés, qui empruntent, mais pour certains seulement d'entre eux, des éléments de contenu à Tolkien. Bon, j'en ai déjà parlé, mais ça n'est pas systématique. Certains vont très bien pouvoir s'éloigner de ce modèle thématique, ne pas reprendre des types de personnages, des thématiques privilégiées, etc. Mais ce que Tolkien a le plus durablement initié, c'est cette ambition, littéralement impossible à jamais atteindre, cette ambition du roman-monde. L'ambition d'un univers issu d'un imaginaire singulier est néanmoins capable d'imposer à tous ses lecteurs, sa plénitude cohérente et de faire croire à sa promesse, pourtant impossible, d'exhaustivité. Donc, une ambition et les moyens, non pas de l'atteindre, mais de l'approcher dans la mesure du possible. Et la forme du cycle est le premier de ces moyens, puisque je l'ai dit, elle répond idéalement aux objectifs du roman monde. Donc, roman qui se confond largement avec l'univers auquel il donne accès, mais aussi roman qui progressivement va gonfler aux dimensions d'un monde, donc sur un nombre de volumes toujours plus important. Alors Tolkien a fourni ce cadre-là et également un certain nombre de procédés qui viennent conférer au cycle la vraisemblance maximale ou étayer sa complétude. Par exemple, la carte géographique est devenue un passage obligé des romans de fantasy contemporains quasiment. Ça ne part pas de chez Tolkien, mais c'est sans doute ce modèle-là qui fonctionne. Et c'est un de ces outils qui permettent de faire comme si le monde fictionnel possédait une existence en dehors des seules fictions qui s'y déroulent. Et vont dans le même sens l'établissement d'index, de chronologie, de généalogie, d'annexes et appendices divers hein, qui sont également caractéristiques des cycles de fantasy contemporains. C'est de cette façon-là que le lecteur y croit, tant qu'il se trouve, pour ainsi dire, dedans, pour reprendre ma première citation de Tolkien. Donc Tolkien, modèle des univers cycliques en fantasy contemporaine, même si pas forcément de leur contenu. Donc modèle et modèle largement à mes yeux inégalé et inégalable, mais comme le disait Alain Évan, en fait tout simplement parce qu'il a d'emblée mené à un point difficilement accessible et égalable par la suite cet effort dans le sens d'une complétude du monde imaginaire. Il a illustré et enrichi sa création pendant des décennies. Il l'a nourri, il a eu le temps de la nourrir, d'une immense culture et d'une réelle conviction dans le pouvoir de la vie imaginaire aussi, ça joue. Donc il y a réellement un monde de Tolkien où sans doute on peut penser qu'il a vécu. Un certain nombre d'autres ensuite, beaucoup d'autres, l'y ont suivi et ont exploré des contrées voisines de celles qu'il avait débroussaillées. Et bon, aujourd'hui, avec la sortie du film et les différentes manifestations qui l'accompagnent, il y a manifestement toute une nouvelle génération de lecteurs qui, à son tour, part à la découverte de la Terre du Milieu et qui sait s'en forgera peut-être à son tour sa propre image. Voilà.
Bien, merci Anne. Des questions, des réactions ? Allez-y, le micro réapparaît. Alors, j'en vois dans les deux premiers rangs. Donc, dans les deux premiers rangs, puis la personne qui est au quatrième. On va essayer de les prendre dans l'ordre.
Merci. Vous avez l'air de dire que les cycles sont une expression particulière de la fantasy et peut-être aussi de la science-fiction, mais il y a aussi des cycles en littérature générale et les deux représentants majeurs du roman réaliste, à savoir Balzac et Zola, se sont aussi exprimés sous la forme du cycle. Et deuxième question, est-ce que vous pourriez peut-être développer l'idée que quand les mondes acquièrent une certaine cohérence, notamment par l'intermédiaire du web, il y a des fans qui écrivent aussi des suites et du coup il y a cette poursuite infinie et peut-être pas si difficile que ça à poursuivre.
Oui, bien sûr. Non, le monde se détache de son auteur précisément à cause de cette forme du cycle qui fait qu'il est éclaté sur différents livres. Donc il est présenté comme étant susceptible de variations. Donc effectivement c'est une invitation pour les lecteurs à entrer dans le jeu sans compter l'effet très important de participation qui est lié au jeu de rôle. C'est surtout en fait les univers de jeux de rôle qui déclenchent ces phénomènes et les univers de séries télévisées aussi, hein, on pense à Star Trek forcément. Donc les univers de jeux de rôle et de séries télévisées qui sont davantage détachés d'un auteur premier et qui invitent davantage les fans à une participation. Bon, pour les jeux de rôle, c'est très clair. Ensuite, je reviens sur la première partie de la question. Évidemment, il y a eu beaucoup de cycles en littérature générale, mais vous remarquerez que c'est au XIXe siècle essentiellement Balzac, Proust, entre autres, à une époque où la littérature générale est peut-être plus sûre de ses moyens, alors qu'au cours du XXe siècle, on a été en littérature réaliste, en littérature mainstream, vers le fragment, hein, vers la prise de conscience de la lacune de la fiction. En fait, à travers des réflexions sur ce qu'était la fiction et ce que pouvait faire la fiction. À partir d'une entreprise comme celle de Balzac, qui était de totaliser le monde, et là, le terme même de roman monde, hein, c'est pas moi qui ai vraiment choisi ce titre, mais il est emprunté à une thèse de Tiphaine Samoyeau, qui s'appelle « Les formes de la totalisation romanesque au XXe siècle », et qui traite, par exemple, encore du monde réel d'Aragon, qui est une entreprise aussi cyclique, un certain nombre de romans d'Aragon, mais qui sont organisés autour d'une idéologie, là, l'idéologie communiste. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soutiennent la fiction seule pour que la fiction réaliste aille dans le sens du cycle, alors que les littératures de l'imaginaire s'y prêtent naturellement. On invente quelque chose de nouveau et donc on va pouvoir vouloir totaliser les savoirs sur ce monde nouveau.
Oui, la référence dont parlait Anne à l'instant, la thèse de Tiphaine Samoyeau, a été publiée depuis Excès du roman. Et c'est vrai qu'elle parle, quand elle parle de roman monde, c'est souvent d'un texte unique. Par exemple, je pense à Pérec, je pense, elle parle de Bror aussi, de la mort de Virgile, elle parle de Joyce. Et c'est un texte à chaque fois. Voilà, donc c'est vrai que Zola et Balzac peuvent faire figure un petit peu d'exception. En ce qui concerne le roman univers, cette fois, la référence peut être aussi le travail de Laurent Jeunefort, qui est aussi auteur de science-fiction. Absolument. Et une dernière référence, pour y en avoir trois, comme dans les récits, Feuille de Nigel, le texte de Tolkien dans lequel le créateur entre dans le monde qu'il a inventé, et passe un monde parfait. Cela dit, moi je ferai juste une petite réserve. Quand Anne disait, au XXe siècle, on prend conscience des lacunes, etc. C'est aussi un petit peu le mouvement de Tolkien. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement affiché pour l'exhaustivité, la recherche de l'exhaustivité, et en même temps une conscience par moment que de toute façon ça va lui échapper, et qu'on laisse des blancs dans la narration. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Ce sont les exemples que je prends des fois. C'est ça. Mais les mystères, mais même les mystères, ce qu'il appelle les énigmes, c'est-à-dire où sont passées les ânes-femmes, qui est en Bombadil, le Balrog a-t-il des ailes? Il y en a beaucoup comme ça. L'exemple que je prends régulièrement, c'est dans Le Chemin des Morts, il y a un homme, un squelette près d'une porte. Et Tolkien dit, qui était-il? Qu'est-ce qu'il était venu faire là? Enfin, le narrateur. On ne le saura jamais. Et donc, il a vraiment voulu, non seulement il n'a pas pu répondre à tout, mais il a vraiment voulu laisser dans le texte des éléments énigmatiques, complètement énigmatiques.
Non, mais c'est ce qui rend crédible. Pardon, c'est ce qui rend crédible aussi son univers. Nous n'avons pas tous au quotidien des réponses à tout. Où est passé ma clé de voiture, etc., etc. Donc si tu ne laisses pas des pièges qui peuvent t'interpeller au quotidien, tu ne crées pas finalement ce qu'on appelle la suspension of disbelief. Il faut absolument qu'à un moment tu te dises, cet univers est réaliste, je peux m'y projeter et je peux continuer de le vivre. Je peux y projeter mes failles, évidemment.
D'autres questions ?
Bonjour, je ne m'attendais pas à être surpris par votre intervention en fait, mais vous avez parlé à un moment de... Excusez-moi, non, mais justement c'est en bien quoi, ça m'a surpris. Quand je vous entends dire névrotique maximale et une emprise dans le monde de Tolkien, je trouve que quand on fréquente un petit peu les forums justement et l'internet, on trouve beaucoup de ça sur les forums quoi, et peut-être que j'en fais partie aussi, ça c'est une autre question. Mais quand vous dites les textes, ça crédite aussi au niveau de l'histoire de la Terre du Milieu en 12 volumes. Justement, c'est là-dessus que je voudrais revenir, c'est qu'au contraire, il ne s'accrédite pas, quoi. Quand on lit un petit peu, quand on essaye de parcourir l'histoire de la Terre du Milieu en 12 volumes, il revient, on a des séquelles A, B, C, D, il revient lui-même sur son histoire tout le temps.
C'est le fait même qui se renvoie les uns les autres qui est une façon d'accréditer. Ce n'est pas le contenu, c'est le renvoi entre les textes et le fait qu'on ait accès à ces textes. Ça, c'est un effet.
Je vous ai bien compris là-dessus. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand vous dites cartographie, Tolkien, lui-même déjà commence par faire une carte qui est largement coupée à l'est. On voit une terre de l'ouest, mais pas une terre de l'est. On entend, par exemple, quand il parle de ces nains, hein, excusez-moi d'en parler parce que ça m'attache, j'attache beaucoup d'importance à ça. Quand il parle de ces nains, il dit loin à l'est, loin à l'est. Tout ça, c'est des énigmes comme le Balrog, mais qui ne sont pas tellement développées de sa part, quoi. En fait, c'est pour ça que ça peut intéresser, ça peut névroser peut-être certains, mais on recherche un petit peu de plus en plus. Et c'est vrai que s'inviter dans l'histoire de la Terre du Milieu en 12 volumes, entre autres par Christopher Tolkien, lui, il a cherché dans les séquelles, dans les notes de Tolkien, tout ça, ce qui a pu créer ça. Et c'est vrai qu'on est tous un peu... Enfin, je ne parle pas de toute la salle qui est ici, mais on recherche tous, comme dans les autres mondes qu'a cité M. Névan, quoi. Et vraiment, j'ai été surpris par votre intervention et j'en suis ravi. Merci beaucoup.
Merci à vous. Est-ce que j'ai une question ?
J'aimerais dire quelque chose. Justement, j'aimerais réagir à ce que vous venez de dire et j'aimerais insister sur la différence entre un roman monde et un cycle, parce qu'un cycle, par définition, est interminable et on peut imaginer que si certains auteurs vivaient 150 ans, ils continueraient tous les ans ou tous les deux ans à produire un roman qui entrerait dans le cycle. Et j'aimerais dire que la fameuse Histoire de la Terre du Milieu, en 12 volumes, édité par Christopher, n'entre pas, à mon sens, dans la perspective ou le jeu ou le désir de son père. Autrement dit, Tolkien avait passé 50 ans à écrire des notes qui sont publiées dans l'histoire de la Terre du Milieu, mais l'auteur, J.W.R. Tolkien, n'avait pas l'intention lui-même de publier ses romans. C'est-à-dire que l'histoire de la Terre du Milieu n'est pas un cycle que le grand Tolkien avait lui-même l'intention d'offrir au public, mais c'est une sorte d'arrière-fond qu'il a construit pour lui-même pour comprendre le fonctionnement de son monde roman.
Et le spécialiste, c'est lui. Le spécialiste, ouais, c'est encore le...
Ça va être juste après la...
Ouais.
Ouais, juste un mot pour dire que il l'a quand même, à un moment donné, soumis à l'éditeur. Donc il l'a soumis, j'en parlerai tout à l'heure brièvement, il a soumis une version du Silmarillion à l'éditeur. Ce que vous dites est vrai par ailleurs, à savoir que si jamais il avait fallu vraiment l'éditer, qu'est-ce qui allait rentrer à l'intérieur de ce livre qui se serait appelé le Silmarillion, ça c'est très difficile à savoir et ça change au fur et à mesure du temps. Hein. Et pour reprendre ce que disait Anne aussi tout à l'heure, et pour ce que disait monsieur, c'est un livre, les 12 volumes, c'est, je schématise un peu, mais c'est 12 fois la même chose sous des aspects différents. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de renvoi de l'un à l'autre, c'est 12 fois un renvoi du Seigneur des Anneaux vers le Silmarillion, mais vers des Silmarillions, faudrait dire. Hein. Il y a 12, enfin, c'est pas 12 fois en fait, mais bon, il y a plusieurs fois quelque chose qui se décline. C'est une variation. Hein. C'est une variation. Voilà, pour la chose brièvement.
Bien, une dernière question avant de faire une pause qui sera la bienvenue. Les questions qui ne pourront pas être prises maintenant, on les prendra tout à l'heure, comme vous voulez. Je vois trois mains, une plutôt devant, une plutôt vers le milieu, une plutôt vers le fond.
Oui, bonjour. Je pense qu'un des éléments qui sont tout à fait spécifiques chez Tolkien, c'est pas seulement la constitution d'un univers, d'un grand cycle, mais c'est aussi le regard sur cet univers par des membres de cet univers qui sont très distincts. Il y a le regard des elfes, il y a le regard des Numénoréens, le regard de Rumil, de Pengolod. Et c'est, je crois, ce qui distingue tout à fait la création de Tolkien de d'autres univers, l'univers de Balzac. C'est Balzac qui voit tout son univers et qui en tient tous les fils. Tolkien joue à ne pas être celui qui tient tous les fils, même si peut-être, et il est possible qu'il ne les tienne pas, justement. Et quand il y a des explications, quand il donne une explication sur quelque chose, il lui arrive de redonner une autre explication et d'expliquer que les différences tiennent soit des points de vue, soit des modifications qui sont arrivées. Et je crois qu'il faudrait aussi penser que Tolkien constitue, est à la fois celui qui lance un cycle et qui est celui qui le poursuit comme les romanciers du Moyen-Âge, hein, le cycle de arthurien. Mais Tolkien est l'orchestre et il est à la fois l'instrument qui lance et Roux qui donne le thème initial et tous les Ainur qui le poursuivent, enfin qui l'évoquent.
À ce sujet, on peut signaler, d'ailleurs il est dans la salle, Philippe Garnier a fait un travail très impressionnant sur les différentes traditions que vous évoquez, donc humaine, elfique, là je ne sais plus où il est. En tout cas, il est dans la feuille numéro 2 que Michael a sous la main. Les traditions textuelles des jours anciens, c'est ça le titre de l'article, et qui fait vraiment des mises au point très claires entre le livre des contes perdus, les différentes versions du Silmarillion. C'est très impressionnant. On en parlera peut-être tout à l'heure avec lui. Voilà, il est là. On fait maintenant la pause et on reprend d'autres questions après. Donc une pause d'une dizaine de minutes. Donc on revient après dans la salle. Les personnes qui sont dans d'autres auditoriums et qui nous voient, il faut qu'elles sachent qu'il reste des places éparses. Donc soyez, enfin vraiment venez après la pause. Il reste des places. Et voilà. Et à tout de suite.
Ça va ? Ça va ?
Café ?
Non, mais c'est parce qu'il y a un type qui...